Au revoir.
Radio Suisse Romande, le Grand 8.
Posez-vous la question, quel est le message que vous retenez grâce à ce paquet d'aide à la Grèce en tant qu'investisseur ou créancier? Le message que vous retenez, c'est que achetez des dettes de pays qui sont en difficulté et vous serez remboursé. Donc la conséquence logique en termes de finances, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir une mauvaise allocation des ressources. On va prêter de l'argent à des gens qui ne devraient plus recevoir de l'argent simplement parce que vous pensez que vous allez être remboursé et garanti par l'État.
À la Grèce, nous n'avons peut-être retenu aucune leçon de la crise. C'était en substance, en tout cas, le message du banquier genevois Michel Juvin, un extrait du Grand 8 d'hier, bien évidemment. Bonjour et merci de nous rejoindre sur la première. C'est le débat qui agite et divise l'Europe en ce moment, l'âge de la retraite. Partout, on tente à sa façon de trouver une solution viable afin de garder les gens actifs un maximum de temps. Et les raisons sont bien évidemment multiples. Dans ce Grand 8, posons ce matin un regard philosophique sur cette notion même de retraite qui nous force à définir la valeur même d'un individu et son rôle concret dans notre société. Par ailleurs, contraindre une personne compétente à prendre sa retraite n'est-il pas aussi, d'une certaine façon, un non-sens économique, social ou humain? On va en débattre avec nos invités, à commencer par vous Martine Libertino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, écrivain, auteur du récent ouvrage « Sauver notre société, utopie ou réalité » aux éditions Duchamp. À propos de valeur et de travail, nous évoquions hier sur cette antenne avec nos invités l'image que provoque aux yeux de certaines personnes un cas comme celui de Brady Dugan. Le banquier vient de toucher ce week-end 89 millions de francs bonus. Et force est de constater que ce modèle est de plus en plus contesté. Alors si certains comprennent qu'un mérite élevé justifie un salaire mirobolant, question dans ce Grand 8, est-ce que le modèle des salaires élevés peut-il être concrètement viable à long terme dans notre société? On va en parler avec vous Jacques Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes syndicaliste, secrétaire national d'UNIA, soyez le bienvenu.
Merci.
À propos Jacques Robert, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le bonheur n'est pas au bout du PIB. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, mais plutôt Yann Marechko qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Yann Marechko, qui vient de publier un ouvrage intitulé « Le bonheur n'est pas au bout du PIB » aux éditions Slatkin. Vous êtes écrivain, philosophe, ancien journaliste et vous cherchez à travers ce nouvel ouvrage à comprendre la place de l'individu dans une économie de marché, un voyage entre économie, philosophie, quête du bonheur. Un peu comme ce Grand 8, on en parle dans cette édition. Sinon, l'essentiel de l'actualité en ce mardi 4 mai 2010, c'est l'Allemagne qui accepte finalement le plan d'aide à la Grèce. Angela Merkel l'a assuré, renflouer Athènes est nécessaire pour l'euro. L'acheteur de la voiture piégée de Times Square est connu. Il s'agit d'un Américain naturalisé d'origine pakistanaise qui se serait rendu récemment au Pakistan. C'est le New York Times qui donne cette information. Et du tennis avec Timea Bachinski et Patty Schnider qui affronteront chacune une des sœurs Williams au tournoi de Rome au deuxième tour. Serena pour Timea, sa rime Vénus pour Patty.
Le Grand 8, Nicolas Esquiaou.
60, 61, 65, 67 ans, partout on tente à sa façon de trouver, je le disais, une solution concernant les retraites. Pour l'Espagne et la Grèce, c'est presque une question de survie économique. Aujourd'hui, on va rehausser l'âge de la retraite. D'autres personnes, une citation, celle d'Anna Mink, lue dans les Échos hier, qui dit que c'est avant tout un signe fort en faisant ça qu'il faut envoyer au marché financier. Alors derrière tout ça, je le disais, la retraite, c'est aussi peut-être et avant tout une question philosophique, car elle nous force à définir la valeur même d'un individu, et on peut le dire, Yann Marechko, son rôle concret dans la société.
Oui, la retraite pose une question qui a été posée maladroitement, mais qui a quand même été posée par Viviane Forrester lorsqu'elle a publié un livre qui ne valait pas grand-chose sur le plan économique, mais où elle reprenait une des thèses de la philosophe américaine, enfin d'origine juive allemande, Hannah Arendt, qui disait qu'une des grandes peurs de l'homme du XXe siècle, c'est de sentir qu'il n'existe pas, qu'il est une quantité dont on peut, qu'on peut jeter comme n'importe quelle autre entité. Et cette peur de ne pas exister, elle est liée à la peur et à l'envie de la retraite. C'est très curieux, très ambigu. Mmh. Cesser de travailler, ça nous fait peur parce qu'on se dit qu'on n'existera plus aux yeux de ses proches et aux yeux de soi-même. Hein, c'est une des plus grandes peurs qu'on puisse avoir. Mais en même temps, on voudrait s'arrêter de travailler pour se vouer à
une quête,
on ne sait pas trop bien
chose,
quoi. Très souvent, moi j'entends parler autour de moi de retraités qui découvrent qu'ils n'arrivent rien à faire de leur journée. Mmh. Et c'est vrai que la vie contemplative, par opposition à la vie active, cette vie contemplative, elle n'est pas facile à développer.
Alors pour vous, autour de cette table, et j'ai peut-être envie de vous poser cette question, Jacques Robert, quand on parle de retraite, c'est quoi? C'est un signe plutôt positif, bonheur ou plutôt malheur?
Non, plutôt bonheur. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi la retraite serait...
Vous réjouissez de votre retraite?
Oui, je me réjouis de ma retraite. Elle sera active. Je ne vois pas pourquoi elle ne devrait être que contemplative, bien qu'on puisse y trouver de l'intérêt. Il y a énormément de choses très intéressantes à faire à la retraite, et les gens le font. Je veux dire, je suis moi-même en contact avec de nombreux retraités. Il y a maintenant une société civile très active, énormément de choses à faire. On peut aussi collaborer à l'éducation des petits-enfants. Les gens se réjouissent d'une part et ont d'autre part besoin de leur retraite, très souvent.
Pour se ressourcer ou pour trouver... Mais vous donnez deux exemples d'une certaine façon. Il y a substitution, c'est-à-dire qu'on va faire l'éducation des petits-enfants, donc on va trouver une occupation, mais en même temps, on va essayer de garder une vie active dans une société qui finalement nous pousse quand même à être... En marge.
Mais on garde une vie active, utile, et puis aussi les loisirs. Je veux dire, il n'y a pas de honte à aller à la pêche, à aller aux champignons, à faire du sport, à visiter
les musées. Ça, c'est le côté
musées,
un peu sympa.
Non, mais ça existe.
Le bonheur est dans le pré.
Ça existe.
Ça existe, bien évidemment. Alors nous, on va s'interroger aussi, Yann Marechko parlait à Martine Libertino, de cette valeur, d'une certaine façon, de l'individu, en citant notamment les philosophes, bon, vous m'excuserez, j'ai pas retenu le nom, Anna Arendt, si, voilà. Mais il y a, et on le voit avec la crise grecque par exemple, rapidement on décide, ok, on va ajouter 5 ans pour trouver de l'argent d'une certaine façon, on va quantifier d'une certaine façon l'individu.
Bon, déjà, j'aimerais reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'en fait, pourquoi se poser la question bonheur ou malheur? Si une personne a été malheureuse toute sa vie, elle ne sera pas forcément heureuse parce qu'elle arrive à la retraite. Si une personne s'est développée, a développé son bien-être et son bonheur dans sa vie, il me semble qu'elle ne va pas arriver à la retraite pour aller aux champignons, elle va aimer les champignons tout au long de sa vie. Donc, essayons peut-être d'aller au-delà de la retraite, parce que pour moi, c'est quand même un problème de société, dans ce sens que on parle de la retraite comme on parle de l'éducation, comme on parle du développement des enfants. Et finalement, on nous met dans un chablon tout le temps en disant, à un moment donné, il faut faire cela. Alors évidemment, ça ne va pas marcher. Alors après, on dit, il va falloir faire autre chose. Reprenons, moi, si vous permettez, j'aimerais qu'on parle finalement de l'histoire de l'homme, parce que tout ça commence à la naissance. Et qu'est-ce qui commence à la naissance? C'est qu'on dit déjà que les enfants doivent faire des études, qu'on doit avoir accès à la connaissance, etc. etc. On nous dit d'ailleurs que tous les enfants vont avoir accès à la connaissance, ce qui veut dire que déjà on nous met avec un état d'esprit particulier en disant que tout le monde doit aller à l'école, que tout le monde doit apprendre certaines choses, et on oublie évidemment qu'il y a des artistes, on oublie qu'il y a d'autres gens. Ce qui veut dire que déjà au départ, chacun est dans son petit tiroir. Ensuite, on nous dit qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut gagner sa vie parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc encore un autre petit tiroir. Et finalement, on s'aperçoit qu'on regarde, si on regarde tout ce qui se passe dans notre société, même l'histoire du volcan, parlons du volcan, hein, c'est très récent. Tout ce que j'ai entendu à la radio, tout ce que j'ai lu dans les journaux, c'est combien ça a coûté à la société. Voilà. À part ça, on ne nous parle jamais d'autre chose, on ne nous parle pas de l'être humain. Alors moi, ce que je vous proposerais de faire peut-être, c'est qu'on parle de véritables besoins. Besoin
vaste
de l'homme,
question,
voilà.
Martine Libertino.
Qu'on parle besoin.
On va avoir une demi-heure pour parler de cette thématique. Et de
voilà, qu'on parle juste des besoins.
D'accord que c'est un enjeu malgré tout. Et alors oui, effectivement, on parle souvent de sous, mais c'est un enjeu économique. Et
okay,
on le voit aujourd'hui en France. On en parle bien évidemment en Suisse. On en parle dans tous les pays aujourd'hui, notamment les PIGS, parce qu'il faut aujourd'hui retrouver vite de l'argent. Et la retraite, oui. Finalement, c'est une des questions où on peut se dire, alors, tiens, on peut encore tirer un tout petit peu de l'individu.
Ok, mais bon, pour répondre tout brièvement à votre question, je pense que l'âge de la retraite devrait être déterminé par les besoins de chaque personne, parce qu'il y a des gens qui ont envie de s'arrêter, parce qu'ils ont aussi un métier qui a été très dur, qui a été très difficile. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses.
D'accord sur
qui correspondrait.
Non, c'est pas difficile.
Mais oui, mais notre société, il faut la changer. Tout le monde sait qu'il faut la changer, cette société.
Ce serait pas difficile.
Non, non. Vous avez parlé dans votre présentation de retraite contrainte. En Suisse, il y a strictement aucune contrainte. Il existe la possibilité d'ajourner sa retraite. Il y a même un sucre relativement important, puisque si on l'ajourne et qu'on travaille 5 ans de plus, on a une rente d'environ 30% plus élevée. Donc les gens ont la possibilité de travailler jusqu'à 70 ans s'ils le souhaitent. Mmh. Bon, maintenant, on regarde ce qui se passe, parce que c'est intéressant.
Sauf que vous
même.
Êtes d'accord, on se retrouve quand on a 70 ans, et une concurrence, il y a des jeunes qui ont 20 ans et qui...
Ah non, mais attendez, je dis simplement par rapport à une éventuelle... Parce qu'on nous dit souvent, oui, mais pourquoi contraindre les gens? On essaye de dessiner un monde où les gens auraient une envie de continuer à travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Or, c'est pas comme ça. On peut prendre sa retraite retraite à 70 ans, il y a 1% des gens qui le font. Si on regarde les chiffres, il y a 10% des gens en Suisse qui anticipent leur retraite et 1% seulement qui la journent.
C'est souvent des professions libérales.
Oui, il y a un besoin qui n'est pas de, de travailler plus longtemps, qui peut être satisfait, mais qui visiblement n'intéresse pas beaucoup de monde. Mais c'est dû aussi, il faut le dire, à l'état de fatigue aujourd'hui. Je veux dire, le travail est extrêmement prenant. On a de gros problèmes de stress, même dans des professions très inattendues. On a fait une enquête récemment chez les maçons. Ils sont sous pression constamment. Le travail est extrêmement dur. D'ailleurs, la consultation psychiatrique explose. Donc, quand on arrive à 65 ans, on est très généralement très content d'arrêter et de faire autre chose. Et c'est une nouvelle vie qui commence, c'est bien.
Oui, mais on revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'être humain a besoin de se respecter, de s'aimer, d'être respecté. Et à partir de ce moment-là, nous envisagerons tous nos métiers respectifs d'une manière différente. Et l'homme arrivera à la retraite avec un autre état d'esprit, avec un bien-être psychologique et émotionnel qu'il n'a pas.
Appliquer ce discours-là, par exemple, si on était une radio d'état grec, ce serait assez difficile. Ou en tout cas, vous auriez de la peine à faire passer ce message.
Oui, mais l'État grec, nous sommes esclaves de ce que nous vivons depuis des décennies. Mmh. Alors, où on décide de continuer à se suicider, bon, sans être négative, j'entends. Hein.
Et de la joie.
Avec beaucoup d'humour. Ou alors on décide que nous avons tous les pouvoirs de changer notre société. Il ne faut pas faire une révolution, il faut changer des petites choses. Apprendre à s'aimer, apprendre à être généreux, etc. etc.
Voilà. C'est un petit peu ambigu ce que vous dites.
Et pourquoi c'est ambigu?
Parce que vous parlez d'une révolution ou
non,
d'une
utopie. Évolution. D'une évolution.
Sauver notre société.
C'est un titre de livre, il faut voir le contenu.
C'est un titre de livre, c'est vrai. Non, ce que je voulais dire, c'est que la question de la retraite, c'est vrai que ce n'est pas qu'une question philosophique, il y a des aspects économiques, et que c'est important pour les gouvernants de faire tourner l'économie d'un pays, parce qu'on ne se fait élire aujourd'hui qu'en promettant plus de bien-être, plus de revenus, plus d'argent.
Il y a une
minorité peut-être qui est insensible. Martine, vous avez réveillé l'anarchiste en moi tout à l'heure en disant qu'on était mis dans des petits casiers dès la naissance, ce qui est vrai. Mais au-delà, il y a cette question de l'homme qui a besoin d'être entendu des devoirs, d'écouter, d'être vu. Il a besoin d'un espace public, c'est-à-dire d'une république, traditionnellement, qui lui donne le sentiment de ne pas être qu'un producteur-consommateur. Si je ne suis qu'un producteur-consommateur, je ne suis guère plus qu'un petit écureuil ou un gros lapin. Donc j'ai ce désir d'un espace public qui satisfait en moi le besoin d'être reconnu, d'être écouté, d'être entendu. Alors, Monsieur Robert, vous disiez tout à l'heure qu'il y a dans la société civile toutes sortes de possibilités pour satisfaire ce qui n'est pas un besoin, mais un désir. Une des choses que j'essaie de faire dans mon livre, c'est de montrer la différence fondamentale entre le besoin et le désir. Nous ne sommes pas habités que par un désir d'avoir une plus grosse maison, une plus grosse voiture, du Dieu sait quoi, mais nous sommes habités par un désir très étrange. Nous voulons toujours aller au-delà de ce que nous avons. Et c'est parfaitement légitime. Seulement, il ne faut pas se tromper. Si on croit qu'on peut aller au-delà de ce que nous sommes, de ce que nous avons, en accumulant les biens, en faisant grossir la machine à produire et à consommer, on est dans un cul-de-sac. On s'enferme dans une situation impossible. Il faut donc absolument à chaque fois se dire, est-ce à mon désir qu'on s'adresse ou est-ce à mes besoins? Qu'il y ait des besoins, bon, c'est évident, hein, mais ces besoins eux-mêmes ne seront satisfaits que par quelque chose d'autre, ce que Marx appelait une superstructure, ce que moi j'appelle des institutions, un espace public ou politique.
D'accord, entre ce besoin de désir et bien évidemment ce besoin... Vaste question encore une fois, mais revenons peut-être au concret et d'une certaine façon aujourd'hui à ce qui se passe autour de nous avec notamment cette question des retraites. Monsieur Robert, selon vous, on est aujourd'hui dans un bon débat? Est-ce qu'on sait poser les bonnes questions lorsque l'on évoque la question, on comprend un peu sensible d'une certaine façon de l'âge de la retraite? Alors parlons de la Suisse bien évidemment. Est-ce que le problème est réglé? Et déjà, est-ce que le terme de problème est
important? Non, pas du tout. On ne voit la majorité... politique ici, les conservateurs en général ne voient la solution que dans la hausse de l'âge de la retraite, le retardement du moment où on peut prendre la retraite. C'est un débat qui est insupportable, notamment pour les gens dont je parlais tout à l'heure qui doivent prendre la retraite. D'ailleurs, cette nécessité de prendre une retraite anticipée se voit aussi par les licenciements. Il y a énormément de licenciements à partir de 50 ans. Plus les professions sont difficiles physiquement, plus le nombre de licenciements est élevé à partir de 50 ans. Et non seulement on est licencié à ce moment-là, mais il est quasi impossible de trouver du travail. Et puis on vient nous dire qu'il faut travailler plus longtemps. Alors, si on nous dit qu'il faut travailler plus longtemps, eh ben, il faut qu'on nous garantisse la possibilité de pouvoir le faire, le cas échéant. Je ne pense pas que ce soit la solution. La solution, c'est très certainement dans une retraite flexible qui permette aux gens qui en ont besoin ou qu'ils souhaitent, qu'ils désirent, de prendre leur retraite avant l'âge de 65 ans. Et là, on nous présente le monde d'aujourd'hui, on le voit en Grèce, la seule solution, c'est soit de continuer à travailler plus longtemps, alors qu'on sait qu'il n'y a d'une part pas de travail et que les patrons ne sont pas intéressés très majoritairement à avoir des gens plus âgés, ou alors baisser les rentes, mais on peut aussi, parce que notre société, notre économie dégage des moyens qu'on pourrait utiliser plus largement pour au moins maintenir, voire financer des retraites anticipées.
Donc vous êtes d'accord, vous, le philosophe, avec ce type?
Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et vous n'avez pas prononcé le mot qu'il faut prononcer, à mon avis.
Pour, anarchie.
Non. Cette fois-ci, c'est un autre mot qui est tiré de la psychiatrie. C'est le mot de schizophrénie. Vous avez raison, nous sommes tout à fait schizophrènes. D'une part, nous vivons dans le règne de la schizophrénie, puisque d'une part, on nous demande de travailler plus, comme vous dites, et que d'autre part, on est licencié à 50 ans, et que généralement, à cet âge-là, on ne retrouve pas un autre travail. Donc, c'est une situation de ce que les psychiatres américains appellent un double bind, une double contrainte. On peut aller ni d'un côté ni de l'autre. Et ces situations impossibles ont des conséquences négatives sur tout le monde parce que ça met tout le monde mal à l'aise et ça stresse tout le monde.
Oui, il y a un côté paradoxal dans ce que vient de dire notamment sur cet exemple de Yann Maresco, Martine Libertino. C'est vrai qu'il y a aussi ce sentiment finalement d'être... on produit une richesse et en même temps on nous pousse de côté d'une certaine façon et on ne contribue plus à la collectivité d'une certaine façon, si je parle économiquement.
Oui, mais c'est ça l'histoire de notre société. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à ne parler que de la retraite, parce que notre retraite en fait se prépare tout au long de notre vie et tout au long de notre carrière. Mmh. Donc si aujourd'hui
parler
nous avons...
Parler à l'école de retraite, ce serait une solution par exemple aux enfants, leur dire
non,
un jour...
Vous... Non, ce qui serait une solution, c'est de parler aux enfants de leur passion, de parler à leurs enfants du fait que l'économie dépend de notre idéal, pas seulement de l'économie. Hein. Et le problème de la retraite, c'est le même problème que nous avons dans notre société à tous les niveaux, parce que finalement nous ne discutons toujours, malheureusement, qu'en termes d'argent, c'est ça le problème.
Oui,
juste terminer, on est plein d'enthousiasme, voilà. c'est que pour moi, je ne nie pas le fait que notre société doit se développer économiquement, mais bien sûr, on a tous besoin d'un bien-être matériel. Mais il faut bien savoir que ce bien-être matériel dépend aussi du bien-être émotionnel et psychologique de l'être humain. Je travaille depuis 30 ans avec des gens qui sont dans des entreprises, qu'ils aient des vocations qui n'aient pas de vocation, le mal-être que les gens vivent dans leur entreprise parce qu'il y a des problèmes de communication, parce qu'il y a des difficultés au niveau émotionnel, font qu'à un moment donné, l'entreprise ne va pas non plus. Vous voyez, donc les chefs d'entreprise devraient aussi s'occuper de ça pour que l'économie aille mieux.
Alors, ce que vous dites, Martine, est fondamental, Libertine. Et c'est une chose qu'on n'entend jamais dire, vous avez tout à fait raison de la souligner, c'est que l'économie par elle-même ne peut pas fonctionner.
Non,
jamais on a eu une économie qui était autonome relativement au désir, notamment.
Nous étions des machines, oui. Ouais,
alors, si nous étions des machines, oui. Mais l'économie, par exemple, pour Marx, elle devait s'inscrire dans un grand mouvement messianique qui allait changer le monde. Pour toutes sortes d'autres mouvements politiques, l'économie doit se... Par exemple, je me souviens que les démocrates chrétiens à Genève disaient l'économie au service de l'homme. Hein, Mais c'est compliqué parce que l'homme, il veut bien que l'économie serve ses besoins, mais il veut aussi que l'économie l'entraîne sur un chemin qui est lié à son désir et non pas à ses besoins. Et quand je dis ça, je vous rejoins, Martine, c'est-à-dire que l'économie toute seule, et comme on en parle aujourd'hui, c'est exaspérant, mais vraiment exaspérant, et surtout quand on articule l'économie sur des considérations mathématiques, qui généralement conduisent au désastre. On le voit, ça se produit à répétition, n'est-ce pas ? Vous avez des fonds avec qui gèrent des milliards de dollars et qui sont dans le conseil et formés de mathématiciens, et ça conduit généralement au désastre.
Et vous en parlez d'une certaine façon d'ailleurs, on va en parler encore en fin de seconde 8, d'ailleurs c'est une bonne transition sur votre ouvrage, le bonheur n'est pas au bout du PIB, parce que vous en parlez longuement. Pourquoi on a besoin de philosophes hein, quand on est peut-être syndicaliste
Mais bien sûr. Chez Unia.
Vous en sollicitez comme ça des fois, vous dites,
ça nous arrive dans les débats.
Ça vous arrive dans les débats.
C'est pas extrêmement courant, mais...
Un homme qui lui n'a pas vraiment de problème, j'imagine, de retraite, ou en tout cas il n'en aura pas au moment venu, c'est Brady Dugan, le banquier, patron du Crédit Suisse, qui a touché ce week-end 89 millions de francs de bonus. Bon, voilà. Alors, on va pas revenir sur le débat, c'est beaucoup trop, c'est pas assez, mais on a plutôt de s'interroger, parce qu'on est, et c'est finalement le cœur de ce débat ce matin, de savoir si concrètement ce modèle de haut salaire, de salaire élevé, peut-il être viable dans notre société. Alors, j'ai quelque chose qui me dit que vous allez dire non, Martine Libertineau, mais je vous donne la parole dans un instant. Yann Marechaux et ensuite Jacques Robin.
Oui, ce que montre cette affaire de Brady Dugan, c'est que, ça nous le savions depuis des années, c'est que le travail n'a plus de rapport avec un revenu ou avec l'argent ou avec le capital. Peu importe ce qu'on choisit, n'est-ce pas ? Mais traditionnellement, on voudrait que la sueur que nous dépensons sur le lieu de travail soit liée à un revenu, qu'il y ait un rapport.
Ouais, qu'on soit payé par la goutte de transpiration.
Qu'il y ait un sens, ouais. Que notre activité ait un sens et que ce sens soit reconnu par le biais d'un salaire plus ou moins élevé. C'était d'ailleurs l'obsession de Marx de comprendre la notion de valeur. Et le pauvre n'y est pas arrivé. Nous non plus, d'ailleurs. La preuve, ce qui vient de se passer ce week-end.
Oui, mais concrètement, vous êtes d'accord. Et là, Jacques Robert, c'est pas nouveau que des personnes ont des disparités salariales monstrueuses.
Non. Là, on dépasse, et c'est très faible de le dire comme ça, on dépasse toutes les bornes. Là, il n'y a ni morale, ni éthique. Je veux dire, là, il y a une espèce de dictature du marché. D'ailleurs, j'entendais sur cette antenne récemment un économiste dire qu'on craignait une attaque du Portugal par le marché. C'est absolument extraordinaire. Il faut mobiliser la troupe au Portugal. Le marché qui n'a pas de tête, qui n'a qu'une main et qui est invisible. Et la banque A nous dit qu'on est obligé de verser des bonus extraordinaires. Autrement, la banque B va nous prendre le personnel. Et la banque B dit nous sommes obligés de verser des bonus extraordinaires. Autrement, nous nous ferons piquer nos cadres par la banque A. Et ça amène à une démesure absolument extraordinaire. C'est inqualifiable. Qu'une personne et ses acolytes puissent penser qu'ils méritent 1500 fois le salaire du personnel de sa banque,
mais
c'est une arrogance.
Mais c'est pas un côté humain. Alors là, vu que j'ai des philosophes autour de la table, mais franchement, on est à sa place. On fait quoi ? On va dire, non,
mais il y a énormément de personnes qui ne demandent pas, qui ne sollicitent pas. Il y a des gens qui font un travail extraordinaire dans les entreprises et qui ne vont pas tous les matins chez le chef du personnel demander
mérite,
une augmentation.
Façon. Moi, c'était plutôt sur la question du salaire
dépasse,
viable.
Moi, j'admets, j'aime pas le salaire au mérite, j'aime pas les bonus, mais j'admets qu'une personne qui est particulièrement efficace, qui fait un excellent travail, qui permet à son entreprise de faire de très bons résultats, ait un salaire plus élevé que l'ensemble du personnel. J'admets, mais là, 1500 fois, non, mais ça dépasse tout, ça n'a aucun sens. Une initiative actuellement qui est en cours de récolte de signatures qui demande une limite de 1 à 12, ça c'est à peu près raisonnable, mais 1 à 1500, c'est indéfendable.
Le cas qui est un petit peu extrême, j'avoue, mais quand même. Martine Libertineau,
Il est évident que, je vais vous dire ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez scandaleux d'entendre ce genre de choses, quand on pense à des gens justement qui n'arrivent pas à vivre. Alors moi j'aimerais quand même reprendre le terme de mérite. Hein. C'est très intéressant ce mot, je trouve. Pourquoi ? Parce que selon dans quelle situation nous nous plaçons, le mérite a une valeur complètement différente. Si on prend le cas d'un artiste par exemple, on va lui dire bon c'est pas la peine qu'il gagne beaucoup d'argent parce que du moment qu'il a une vocation, c'est magnifique pour lui, c'est pas nécessaire. Si on prend une personne qui est dans l'humanitaire, on va dire bon, elle a du mérite, de toute façon c'est normal qu'elle fasse du bénévolat. Vous voyez, finalement, le mérite a des valeurs complètement différentes en fonction de ce qu'on a envie d'entendre. Hein. Alors là, dans le cas particulier, il est vrai que je suis entièrement d'accord avec vous, on ne doit plus accepter ça, mais ce que je vous inviterai peut-être à essayer de creuser, quelle est la cause de ce mal ? Parce que finalement, pour que ce monsieur ait un bonus, il faut qu'on fasse en sorte de la pâter avec le bonus. Et là, pour moi, la cause de tout cela, c'est l'égoïsme de l'être humain.
Il y a la cause d'un côté, et d'un autre côté, il y a les effets de cette pratique que vous dénoncez justement, monsieur Robert. Ouais. C'est-à-dire que ça mine le sens, le goût au travail, le désir de construire sa vie à partir, d'un certain revenu. Alors ouais. Peut-être que ça peut conduire à l'anarchie, à la marginalité et au bonheur.
Ah, un sentiment d'injustice en tout cas, c'est clair. Ouais.
Et donc ça, non seulement il faut trouver les causes, mais il faut être conscient des conséquences que ça a sur la culture de toute une société. Moi, mes enfants sont majeurs et vivent ailleurs d'ailleurs, donc ça ne me pose pas de problème à ce niveau-là, mais j'imagine dans les classes ou pour les adolescents qui discutent peut-être un petit peu entre eux de ces salaires, ils se disent mais à quoi bon faire des études, à quoi bon essayer d'aller
Attendez, moi je suis étudiant, j'ai 16 ans, j'ai mon gadget, mon téléphone portable et je l'ado moyen, j'ai qu'une envie, c'est de ressembler à Brady Dugan d'une certaine façon.
C'est un autre effet. Alors bon, sans rien justifier évidemment, mais je dis avec un tel salaire, une voiture de luxe a à peu près la même valeur proportionnellement que le panier du samedi à la COP. Je veux dire, piquer la voiture de luxe à quelqu'un comme ça, ça lui fait ni chaud ni froid. Et il y a des gens qui se disent ça dans les banlieues, qui nous envoient parfois des gens.
Je
veux dire, c'est une société qui marche sur la tête. Je veux dire, c'est une économie qui ne peut pas effectivement continuer à fonctionner de cette manière-là. Parce que ça justifie, après, vous le disiez, M. Marisco, ça justifie accessoirement des pratiques économiques, le profit à court terme, faire n'importe quoi par pure cupidité pour gagner le plus possible très vite, sans s'occuper du tout des conséquences que ça peut avoir à court terme, à moyen terme. On l'a vu, je veux dire, ou pour démontrer qu'une entreprise est bien gérée, on licencie une partie du personnel, ça fait monter les actions, ceux qui les avaient achetées pas cher font des profits, c'est des pratiques qui ne sont absolument en rien justifiables.
L'exemple de Monsieur Robert est fondamental. Hein. C'est-à-dire des adolescents ou même des étudiants qui se disent finalement, puisque notre société n'a aucune éthique, à quoi bon est-ce que nous respecterions des valeurs ? Hein. Moi, ça me fait rire d'entendre des politiciens ou des gouvernants, en quelque manière, des gens du monde des affaires, nous parler d'éthique, il faut respecter des valeurs. Bah, comment est-ce qu'on peut respecter des valeurs quand vous avez des gens autour de vous qui font 90 millions de dollars par année ? Donc, on retombe dans ces conséquences que j'évoquais tout à l'heure. C'est pas seulement que c'est immoral, mais ça mine les fondements d'une société. Parce qu'une société où on se dit, c'est pas la peine de suivre quelques valeurs que ce soit, puisque de toute façon, il y a des brigands de la haute finance, mais une telle société est destinée à s'effondrer. Je crois que c'est une de vos voies de réflexion, Martine.
Bon, je ne dis pas que la société va s'effondrer, pas du tout, parce que j'ai un grand espoir en l'homme. Hein. J'ai toujours cru en l'homme, mais il va falloir que l'homme simplement apprenne quels sont ses besoins. Vous avez parlé des besoins tout à l'heure.
Bon. De désir, surtout.
Mais je crois qu'on se rejoint avec des mots différents. Bon, pour en revenir justement à notre histoire, c'est que ce qui est dommage, c'est que toute cette problématique fait que ça donne aussi une image de fausse des jeunes, par exemple, puisqu'on parlait des jeunes. Moi, je travaille avec énormément de jeunes depuis de nombreuses années. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois des jeunes de 18-19 ans qui viennent avec exactement l'état d'esprit que vous venez de citer. Mais quand on commence à creuser et qu'on arrive à les faire parler, on arrive à une situation complètement différente. Et finalement, ces jeunes font de la dérision parce que c'est la seule chose qui leur reste à faire. Mmh. Mais cette dérision dérision n'est que l'effet d'une souffrance. Et lorsqu'on commence à leur dire, mais qu'est-ce que tu veux de ta vie, tu peux avoir l'espoir d'être passionné, de faire des choses qui te plaisent, on a un langage complètement différent. Et on voit que les jeunes ont envie d'admirer les adultes, ils ont envie de changer la société, ils ont envie de faire quelque chose. Mais bon,
et pour revenir en fait avec notre débat initial, avec notamment la question de la retraite, c'est presque d'une certaine façon la place au dialogue qui est préconisée. Non, je me trompe, la place du dialogue et notamment de l'échange.
Je me disais en écoutant.
Vous me regardiez avec des grands yeux, j'étais là, ça y est, j'ai dit une connerie à la dernière minute.
C'est la question d'une parole libre, de lieu où la parole peut... Moi, je parlais d'espace public ou civique tout à l'heure. Eh bien, dans cet espace-là, aujourd'hui, il n'est plus question que d'économie. Et c'est exaspérant. Et moi, je comprendrais un deuxième... À cet égard, je pourrais comprendre un deuxième mai 68.
Eh bien, en tout cas, Yann Maréchaux, vous venez de publier aux éditions Slatkin un ouvrage intitulé « Le bonheur n'est pas au bout du PIB et pas l'inverse, attention ». C'est donc disponible dans toutes les bonnes librairies. Soulignons également l'ouvrage de Martine Libertino, qui était également notre invitée, « Sauver notre société, utopie ou réalité » aux éditions Duchamp. Merci également à vous, Jacques Robert, syndicaliste secrétaire national du DIA. Pas de livre pour l'instant ?
Pas encore.
Les mémoires de syndicalistes.
Je commence à y penser.
Non, vous serez à la retraite.
Toutes les références pour réécouter cette émission, c'est sur notre site g8.rsr.ch. Vous pouvez également nous retrouver sur le site de réseau Facebook. 8h33.